Voilà, c'était Mambo In Encore, de composition de Mario Bauza. Et nous sommes dans les années donc capitales pour la musique américaine et aussi la musique cubaine. Ce sont les années 30-40. Et on peut dire que Mario Bauza fait une excellente carrière, si on peut le dire, aux États-Unis, puisque étant directeur musical du groupe de Chic Webb, après cela, il rentre chez, il travaille même avec Xavier Cugat, qui est la vedette, la star. Bien sûr, c'est une musique cubaine très édulcorée.
Ouais, espagnole.
Espagnole. Bon, faut pas trop choquer les oreilles du white anglo-saxon. Mais en fait, ça marche, hein, puisque Hollywood a transcrit en image l'existence de cette musique. Et aussi, surtout, il rentre chez Don Redman, qui est un excellent trompettiste, un très grand, un bon orchestre moyen de jazz. Enfin, quand je dis moyen au niveau des hommes. Et après, bien sûr, c'est la consécration, puisqu'il rentre chez Cab Calloway. Cab Calloway, pour ceux d'entre vous qui ne voient pas qui c'est, eh ben, c'est ce fameux personnage qui chante The Moose et aussi qui chante Idaho en laissant, en voyant monter ses cheveux.
C'est un gars très exubérant.
Très exubérant. Et qui est la vedette, une des vedettes du show business à l'époque, et qui gagne certainement beaucoup. Et donc, si Mario rentre chez lui aussi avec un rôle justement de direction musicale, si on peut dire que Mario, là, est quelqu'un connu dans la diaspora.
Ah oui, Cab Calloway, c'est le film Cotton Club.
Cotton Club, oui, alors, voilà.
Pour ceux qui écoutent, qui essaient de trouver le film Cotton Club, ouais. Ils seront ravis.
Donc, on peut dire qu'à cette époque-là, Mario Bauza se positionne très bien au sein justement des groupes musicaux de New York.
Ah, là, il cultive son jardin, voilà. Je vais dire. Mais alors, nous sommes en train de parler d'un personnage, Luc, dont personne peut-être n'a jamais vu la moindre photo, mais aussi...
Il n'est pas très grand, hein, je crois que c'est 1m55, il est assez mince, et enfin, petit personnage.
Mais surtout que personne n'a entendu... C'est-à-dire que, bon, on n'écoute pas le Miri, bon, c'est quoi, il joue piano, bon, il n'y a pas 15 pianos dans un orchestre. Bien. On parle d'un musicien qui a intégré la section brass, trompette, jouant à côté d'une autre section qui est les reeds, saxophone et trombone. Et donc, les trompettes, tout ça, c'est marié tout ça. Donc la trompette, c'est un trompettiste parmi d'autres, même s'il a été le premier trompette. Ouais. Hein, des orchestres là où il est passé, premier trompette de Machito, mais on ne l'entend pas, le premier trompette, il est là, il fait sa partie. Par contre, on va entendre Dizzy, on va entendre, je ne sais pas moi, tel ou tel autre, mais pas lui. Un autre gars souffre du même problème, c'est Chico Farrell. Chico Farrell, lui, c'est un clarinettiste, c'est un trompettiste, mais qui a déjà entendu Chico Farrell exécuter un solo ou faire un chorus tout seul, se détachant dans un chorus? Personne, non plus.
Il n'y a pas de référence.
Voilà. Alors que nous, ici, étant donné que nous sommes des gens extérieurs à cette musique, donc extérieurs, si tu veux, à l'hispanité, et extérieurs au monde du jazz, pour la majeure partie d'entre nous, mais qu'il y a des musiciens guadeloupéens qui excellent dans cet art, Mavounzi, Alain Jean-Marie et quelques autres, la majeure partie du public n'a pas de référence sonique de Bauza.
Oui.
Étant donné que nous avons besoin d'éléments pour comparer, parce que nous aimons mieux comparer, parce que quand je suis venu en Guadeloupe en 72, ben, tous les gens jeunes et moins jeunes qui s'intéressaient à la musique latine, eh ben, ils aimaient bien comparer Mongo et Barreto, même s'ils n'avaient jamais entendu Mongo, mais ils savaient comme ça qu'il y avait un mec qui s'appelait Mongo, il était plus ou moins noir, ils ne savaient pas d'où il venait, mais ils connaissaient surtout Barreto, parce que les disques de Barreto sont arrivés ici dès 1964. On a connu Barreto et les disques arrivaient souvent. Donc l'arrivée des disques comme bien culturel fait que l'on découvre des personnages. Bauza, peut-être qu'on a vu
ce
son
sont
nom.
Des balises.
Ouais, on a peut-être vu Bauza, directeur musical ou trompette dans quelques big bands, mais.
Oui, mais il était tout à fait inconnu du grand public.
Oui, et je crois qu'il va rester inconnu. Et c'est pour ça qu'il faut se détacher un peu, point de vue par rapport à toutes ces interviews, par rapport à tous ces dossiers de presse, par rapport même au film qu'on va faire peut-être sous Bauza demain, parce que c'est l'œuvre vient de nous fouetter, mon capon valet.
Oui.
Tout le temps qu'on vit, bon, on n'a pas de valeur. Dépôt vient nous fouetter, pas de problème. Ou bon.
Ça se vend.
Ou t'es meilleur.
C'est un peu de nécrophagie.
Voilà. Ah, très nécrophage, les mecs. Et donc, le Bauza, il faut savoir, alors que je te l'ai dit hier soir, que tout de même, à mon avis, s'il a excellé dans un sens musical, il a complètement oublié un autre volet de la musique cubaine, qui est le danson. Mais Il faut savoir que Baoussa, en tant que joueur de clarinette, alors qu'il avait 17 ans ou 16 ans, il a enregistré avec sa clarinette dans l'orchestre de danson d'Antonio Maria Romeu pour la RCA Victor. Ça se passe en 1926 à New York. Et donc, peut-être qu'il s'était bouffé, et puis danson, hein, d'ailleurs. Et donc, il a laissé tomber le danson. Il n'en a plus joué jusqu'à sa mort. Donc, il a laissé le danson pour les Arcanio, pour Cachao, pour tous ceux qui sont venus après, les Orestes Lopez, d'ailleurs, qui allaient exceller là-dedans, bien sûr. Donc, il a pris une autre voie. Donc, il a totalement oublié. Il est resté plutôt très rumba, on va expliquer tout à l'heure, mais aussi, on récupère un mot pour contrecarrer pointé, on récupère Mambo King. Pourquoi Mambo King? Allez savoir. Parce que c'est du commerce. Il faut opposer les genres. Pointé, il a sorti un disque, son centième album, soi-disant, alors que ce n'était pas son centième. On a même établi une liste. On a établi une liste. Hein. Ce n'était pas son centième.
Tu parles de ces disques qui sont sortis sur Concorde Picante. Hein.
Oui, oui, oui. Alors, ce n'était pas son centième album.
Non.
C'était une opération commerciale. Voilà.
Donc, label.
Voilà. Donc, Baoussa, étant donné qu'il était déjà sous ce vieux jour, on a dit, mais étant donné qu'il a tant étant reçu comme reconnaissance, comme acte de reconnaissance, de civilité, tant de décoration de la part de la ville de New York, de l'Institut Smithsonian de Washington, pourquoi ne pas lui rendre des hommages et tout ça? Donc on a commencé à le titiller, à l'interviewer et tout ça. Mais pendant 50 ans, on a oublié Baoussa.
Absolument. D'ailleurs, il fallait vraiment être au sein de cette musique qui se faisait dans ces années 40 et 50 pour vraiment repérer le nom de Baoussa et savoir, par exemple, après certains dires de musiciens comme Dizzy, etc., que ce personnage existait, parce qu'il était vraiment dans l'ombre.
Mais bien sûr, et d'ailleurs, un directeur musical, directeur d'orchestre comme lui, effectivement, il est à l'avant-scène, bien sûr, mais quand on voit son nom, étant donné qu'il va souffler dans sa trompette une ou deux fois, le public ne repère pas le nom. Et ça j'insiste là-dessus, parce que, admettons qu'un percussionniste guadeloupéen arrive sur la scène demain, et soit reconnu par le public. Le pays est petit. Mais s'il se met non pas à jouer de son instrument, mais simplement à conduire, mais on va oublier qu'il était bon sur son instrument, c'est pareil.
C'est cela, oui.
Donc Baoussa, lui, pour sortir de l'ombre là où il était, bien qu'elle était sous le spotlight, puisque un conducteur d'orchestre, mais il va monter sa formation en 76, mais nous ne sommes pas encore là.
Voilà. Donc nous allons parler peut-être de la rencontre avec un personnage hors du commun qui s'appelle Dizzy Gillespie, ce qui va donner naissance justement à une alliance assez fantastique. Mais déjà, l'intérêt de Dizzy vers la musique cubaine se fera justement grâce à la connaissance de Mario Baoussa et au sein de l'orchestre justement de Chick Webb et de Cab Calloway. Cab Calloway n'était pas trop d'accord pour avoir Dizzy comme trompettiste parce qu'il savait déjà que c'était un personnage fantasque, très particulier, qui faisait des blagues. Et Dizzy même savait qu'avec Cab, ça n'aurait pas été parce que Cab était très rigoureux. Mais je crois que c'est Mario qui avait insisté pour que Dizzy vienne. Et bien sûr, cette amitié est surtout née à cause de l'intérêt, de la curiosité de Dizzy Gillespie envers ce qui était différent de ce qu'il faisait. Donc on voit déjà l'allure du personnage, un personnage qui regarde en dehors de lui-même, vers justement Mario Baoussa, et est déjà assez singulière, et sera riche justement de récoltes, de production. Et ce qui amènera justement cette fantastique réussite, qui est cet accord entre ces deux musiques, le jazz et la musique cubaine. Mais Mario Baoussa, on peut le dire, maintenant c'est de plus en plus porté en exergue, quoi, à la connaissance, a été l'un des personnages qui a permis justement cette réunion entre ces deux musiques. Il y a quelque chose que j'ai lu qui parle justement de un moment où il a compris où se trouvait justement la jonction entre ces deux musiques. Il semblerait que ça a été une erreur d'un pianiste qui s'appelait Luis Verona. Je ne sais pas si tu vois.
Luis Verona.
Verona.
Ah oui, il a joué.
Qui s'était trompé en jouant l'intro de El Botelliero. C'était un air de rumba à la mode. Et le contrebassiste Giulio Andino qui avait entamé une ligne de basse inappropriée. Et Mario Baoussa avait entrevu là la possibilité de marier techniquement jazz et musique afro-cubaine. Alors, Est-ce qu'il faut croire à cela ou bien est-ce que c'est une chose reportée par la presse sur laquelle justement on souligne un truc, mais en fait c'est peut-être plus large
que ça. Oui, mais ce matin j'ai pensé quand je travaillais, je pensais à cet hybride qui est le Latin jazz ou encore l'Afro-Cuban jazz ou encore l'Afro-Bop, tout ce qu'on voudra. Il y a un autre hybride d'ailleurs qui est le Maï, mais le Maï c'était il y a 4000 ans. C'est le dernier en date, notre musique cubaine et jazzistique mariée. Donc cet hybride, il s'est placé où on l'a placé, sur une autoroute, à cause d'un certain nombre de personnages, parmi eux Baoussa, qui est un fameux entremetteur.
Voilà.
Il a été un entremetteur deux ou trois fois dans sa vie. Là, tu me parles de Cap Calloway et Dizzy. Quelques années plus tard, ce sera autour de vieux sorcier Chano Pozzo. Et c'est lui qui fera que Chano aura cette carrière fulgurante et bien sûr qu'il va finir dans un bar à balas, comme on dit, à coup de pistolet. Donc, Baoussa, il a presque sa place au soleil. Presque. Il lui faut maintenant de grandes formations. Et de grandes formations, il les a eues. Dès 1941, il intègre l'orchestre de son beau-frère.
Machito.
Mais alors, il y a quelque chose qui nous frappe. Chez les Latins, on l'a assez répété, c'est le machisme.
Oui.
Femme pas qu'à ou là, non, bitin, c'est missile. La femme, elle est absente. La femme, elle est absente.
Quoi que Graciela.
Oui, Graciela, mais il faut parler de Graciela parce que Graciela Pérez, qui joue, qui chante à Cuba dans le fameux orchestre Anacaona, Graciela débarque à New York. Mais Graciela ne va pas chanter tout de suite. Il ne faut pas oublier que le Latin jazz et le cubop, ce sont des musiques éminemment instrumentales. Il n'y a pas de place pour la femme, enfin, ni pour la voix.
Pour la voix, oui.
Il n'y a pas de place. Et Graciela, elle rentrera beaucoup plus tard. Beaucoup plus tard. Et elle sera très mal employée. Je me souviens d'une discussion que j'ai eue avec René Lopez, qui est tout comme moi, assez très prisé par ce statut de musique. Et nous sommes très
investis. Décortiqués.
En train de décortiquer ces musiques. René Lopez me disait une fois que Graciela, on l'a simplement laissé dans un coin interprétant.
Alex, qui est René Lopez?
René Lopez, c'est un... nous avons le même corps de métier. Il est radiologue. Il est assesseur, comme il dit. Il est assistant dans un hôpital de New York. Il s'occupe beaucoup, bien sûr, c'est le sida qui est à la mode. Il s'occupe beaucoup de cette maladie. On a parlé souvent au téléphone de son rôle dans l'hôpital où il est. Mais aussi, il s'est investi dans la musicologie et dans l'ethnologie. On fait un peu la même chose, lui et moi. Et donc, il essaie de faire ce qu'on appelle en espagnol una obra de rescate, c'est-à-dire une œuvre de sauvetage de toute cette excellente musique cubaine que nous connaissons, parce qu'elle est ciblée, il faut la cibler, cette excellente musique, par rapport aux autres.
Aux autres, oui.
J'insiste. Il faut la cibler, l'encadrer et ne pas laisser des mains griffues venir la salir. C'est ce que René Lopez fait à New York, la réenregistrer, la remixer, la mettre sur vinyle ou sur CD, réécrire des commentaires, connaître l'histoire de la musique, repérer et répertorier ceux qui ont fait cette musique, les géants, ceux qui ont suivi, ceux qu'on a aidés, ceux qui sont montés à New York, ceux qui sont restés à Cuba, mais des deux côtés du canal de Yucatan, n'est-ce pas, recenser tous ces personnages qui ont fait notre musique, ou nos musiques, deux faces de nos musiques afro-américaines. Ça, c'est très important. Et René Lopez, lui, c'est un peu le rôle qui s'est assigné. Ils ont sorti quelques petits labels, comme Cubitas, Carino, dont Tumbao, c'est le dernier avatar. Tumbao, c'est le petit label espagnol, dont on va parler sans doute un jour. Je suis en train de travailler là-dessus. Donc, nous étions à René Lopez qui me disait, concernant Graciela, qu'on confinait Graciela dans un rôle de second plan, chantant quelques boléros, ou la confinant dans des rôles sino, c'est-à-dire le truc juste au-dessus de la ceinture, tu vois. Donc, les mecs, le machisme bien, oui, machisme. Oui, d'ailleurs, Franck Guilio, son nom c'est Machito, enfin Machito. Son nom de spectacle
petit
c'est Machito.
Petit macho.
Timal.
Timal, exactement.
Voilà.
Timal Machito. Ouais.
Donc, nous étions, si nous écoutions un thème.
Oui.
Nous écoutons donc quelque chose d'afro, puisqu'il s'agit de Congo Moulense, qui est un guaguanko à l'origine des quartiers.
Alors là, il y a une belle rencontre.
Oui, alors j'ai vu notre technicien, enfin j'ai oublié de le saluer, salut hermano. Il regardait avec appétit la pochette tout à l'heure quand il a vu Cannonball Adderley et les autres. Voilà. Nous écoutons Congo Moulin, c'est.